Vous écoutez, on lit pour vous.
Des levures pourraient aider à conserver les aliments. Un texte de Jean-Benoît Legault de La Presse canadienne, paru le 24 avril 2024 dans La Presse. Des levures identifiées par des chercheurs de l'Université Laval pourraient un jour remplacer certains agents de conservation chimique que l'on retrouve dans certains aliments. En collaboration avec une équipe de l'Université de Lille, les scientifiques québécois ont plus précisément identifié deux espèces de levures provenant de fromages produits en France et au Québec qui semblent en mesure d'inhiber la croissance de certains micro-organismes qui réduisent la durée de conservation ainsi que la salubrité des aliments. On se rend compte finalement que ces levures-là, qui sont présentes de façon naturelle, c'est comme un peu un système de défense dans le fromage, où elles vont être capables d'éliminer naturellement des bactéries qui sont pathogènes, a expliqué l'un des responsables de l'étude, le professeur Steve Labrie, de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Et l'idée, c'est de comprendre comment on peut favoriser ce genre de micro-organismes qui ont déjà des activités antipathogènes dans les produits. Les deux levures identifiées, M. pulcherrima et T. acai, sont conservées dans la collection du laboratoire de mycologie alimentaire de l'Université Laval qui comprend plus de 5000 souches microbiennes isolées de lait et de fromage provenant surtout du terroir québécois. Les chercheurs ont testé en laboratoire le potentiel inhibiteur de ces deux levures face à 16 champignons microscopiques et bactéries, notamment des souches de Clostridium et de Listeria qui, en plus de nuire à la conservation et à la salubrité des aliments, peuvent causer des intoxications chez l'humain. La première levure s'est révélée efficace face à 10 de ces souches et la seconde face à 4. Les deux levures ont présenté une efficacité face à Listeria. D'autres tests ont démontré, dans un fromage produit en laboratoire, que les deux levures sont en mesure d'inhiber des champignons microscopiques dont on sait qu'ils nuisent à la conservation des aliments. Lorsqu'on regarde plusieurs variétés de fromages ou plusieurs fromageries, on se rend compte que la flore est assez différente et que chacune a ses particularités, a dit le professeur Labrie. Donc, ce ne sont pas tous les fromages qui ont ces levures, mais certains les ont. Et l'idée, c'est de comprendre comment ça s'est retrouvé dans certaines variétés et pas dans d'autres. Et puis, comment ça contribue à éliminer les micro-organismes autogènes. La manière dont les flores se développent dans le fromage est encore très méconnue, a-t-il rappelé. Même après 20 ans en microbiologie, il lui arrive de croiser un micro-organisme comme une levure ou un champignon et je ne sais pas ce qu'il fait là. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il contribue de façon positive ou négative? C'est encore une grosse boîte noire sur qui fait quoi, puis comment. Et c'est quoi sa réelle contribution dans le produit, a dit le professeur Labrie. Les chercheurs ont pour le moment été en mesure de déterminer que ce sont des molécules produites dans le milieu par les levures qui inhibent la croissance des autres micro-organismes. Ils essaient maintenant d'isoler et de caractériser des molécules antimicrobiennes produites par des levures. Ces molécules, a-t-on expliqué, pourraient un jour remplacer des agents de conservation chimiques dans les aliments ou encore être utilisées contre des micro-organismes pathogènes en santé humaine ou en santé animale. Dès qu'on a de l'inhibition contre des pathogènes, on doit pousser les travaux plus loin, a dit le professeur Labrie. On est vraiment au niveau préliminaire dans nos études, mais, comme c'est déjà présent dans les fromages, on est sur une voie plus sécuritaire vers l'utilisation dans des produits alimentaires ou dans des applications humaines, parce que c'est déjà présent et consommé depuis plusieurs milliers d'années. Même après des millénaires, rappelle-t-il, la fabrication du fromage tient bien davantage de l'art que de la science, et de multiples mystères restent à élucider. Comme scientifique, on essaie de comprendre les leviers que les fromagers et fromagères utilisent de manière plus instinctive, a-t-il indiqué. On en a encore beaucoup à apprendre sur l'instinct des fromagers et des fromagères. L'équipe de Steve Labrie évalue maintenant le potentiel antimicrobien d'autres souches de levure conservées dans la collection du laboratoire de mycologie alimentaire de l'Université Laval. C'était « Des levures pourraient aider à conserver les aliments », un texte de Jean-Benoît Legault de La Presse canadienne, paru le 24 avril 2024 dans La Presse.
Le grand guide des petites tâches, un texte de Extranou, paru le 3 mars 2024 dans La Presse. Les enfants sont capables d'en faire beaucoup plus que bien des adultes pourraient le croire. Leur confier des tâches dès leur jeune âge aide à développer leur autonomie, leur sens des responsabilités et de nombreuses autres aptitudes. Par où commencer? Voici quelques idées. Note, chaque enfant progresse à son propre rythme, et certaines demandes pourraient s'avérer plus faciles ou plus difficiles que d'autres pour lui ou elle. Utilisez les suggestions ci-dessous comme point de départ, puis adaptez-les en fonction de ses aptitudes. De 2 à 3 ans. Bon nombre de très jeunes enfants croient qu'imiter ce que font les grandes personnes, c'est la chose la plus formidable au monde. Profitez de ce stade de leur développement pour leur enseigner quelques tâches rudimentaires, le tout sous votre supervision. Ranger les jouets. Remplir la gamelle de nourriture d'un animal de compagnie. Déposer les vêtements sales dans le panier à linge. Essuyer un gâchis. Empiler des livres ou des magazines. De 4 à 5 ans. À cet âge-là, une meilleure coordination œil-main permet aux enfants d'accomplir des tâches un peu plus complexes. Leur mémoire se développe, leur permettant dès lors d'être en mesure de réaliser les travaux simples en 2 ou 3 étapes, sans supervision. Faire leur lit, aider à débarrasser la table après les repas, désherber, participer à ranger l'épicerie, trier les vêtements par couleur pour le lavage. De 6 à 9 ans, si l'enthousiasme est peut-être moins présent à cette période de leur vie, c'est que les jeunes développent leur désir d'indépendance à l'âge scolaire. Pour encourager leur autonomie, notez les tâches à accomplir sur un tableau, puis invitez vos enfants à rayer celles qui sont terminées. Balayer les planchers et passer l'aspirateur, mettre les couverts sur la table à l'heure des repas, remplir et vider le lave-vaisselle, ranger leur chambre, aider à la préparation des lunchs et des repas. De 10 à 12 ans. Une routine bien établie et des attentes claires font bien les choses à la préadolescence. Si vous souhaitez modifier les paramètres de certaines tâches domestiques, discutez-en d'abord avec les jeunes, puis assurez-vous que les règles du jeu sont bien comprises. Cuisiner des repas simples. Utiliser la laveuse, la sécheuse et le lave-vaisselle. Sortir les poubelles et le bac à recyclage. Nettoyer la cuisine et la salle de bain. Aider au lavage des véhicules. 13 ans et plus. Lorsque vient le temps d'entrer au secondaire, les jeunes sont en mesure d'accomplir quasiment toutes les tâches qu'effectueraient les adultes. L'élément à surveiller est surtout leur emploi du temps chargé et leur capacité à bien gérer leurs responsabilités. Gardez l'œil sur les engagements scolaires et parascolaires de vos ados et, au besoin, ajustez en conséquence les tâches et les activités prévues. Tondre la pelouse, s'occuper de jeunes enfants pendant de courtes périodes, repasser les vêtements, prendre soin d'un animal de compagnie de façon autonome, laver les fenêtres. Bonne pratique pour encourager l'autonomie. Donner des consignes claires. Range ta chambre est peut-être trop vague pour de jeunes enfants. Vous pourriez mieux les orienter en leur demandant plutôt de mettre tous leurs jouets dans un bac, de faire leur lit et de déposer leurs pyjamas dans le panier à linge sale, par exemple. Ayez des attentes réalistes. C'est à force de se pratiquer que les jeunes développent leur habileté à bien exécuter une tâche. Éviter de repasser derrière vos enfants revient à vous priver de leur aide. Saisissez l'occasion pour leur enseigner la bonne technique. Commencez tôt. C'est souvent un piège d'attendre que les enfants fassent preuve de suffisamment de maturité ou soient habiles pour contribuer aux travaux domestiques, puisque c'est justement par l'action que les jeunes apprendront. Encouragez vos enfants. Félicitez-les pendant l'accomplissement de leurs tâches, sans attendre que tout soit terminé. Cette approche aide à créer une dynamique positive, surtout en bas âge. C'était Le Grand Guide des petites tâches, un texte de Extranou, paru le 3 mars 2024 dans la presse.
Fraude. Réfléchir un peu avant de cliquer. Un texte d'Émilie Laperrière, paru le 29 février 2024 dans la presse. Vol d'identité, hameçonnage, faux site web. Les fraudeurs informatiques rivalisent d'imagination pour attraper leurs prochaines victimes et leurs techniques deviennent de plus en plus sophistiquées. Pour éviter de tomber dans le panneau, il faut adopter les bons réflexes, user de prudence et, surtout, prendre du recul avant de cliquer. Depuis quelques mois, les fraudes les plus répandues au pays sont liées aux investissements, constate Benoît Dupont, professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. On parle de tout ce qui concerne les crypto-actifs. Ce n'est pas le plus grand volume de fraude, mais en matière d'impact, de montant et de préjudice financier, c'est la fraude numéro un, dit-il. Les fraudes amoureuses, où le fraudeur établit une relation virtuelle avec la victime avant d'essayer de la convaincre de lui envoyer de l'argent, demeurent un grand classique selon celui qui est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité. On trouve aussi les fraudes marchandes, liées au commerce en ligne, notamment sur Marketplace, ajoute-t-il. Emeline Manson, formatrice en prévention des fraudes et en cybersécurité, remarque pour sa part une recrudescence des fraudes ciblant les personnes âgées. C'est un cas où le malfaiteur contacte un grand-parent en se faisant passer pour son petit-enfant. Il prétend alors qu'il a un problème qui va du bras cassé au passeport perdu jusqu'à la prison pour obtenir de l'aide financière, explique-t-elle. Prévenir plutôt que guérir. Comment peut-on s'assurer de ne pas devenir la prochaine victime? C'est très difficile, admet Benoît Dupont. Les fraudeurs sont des professionnels qui comprennent parfaitement les mécanismes de persuasion et le fonctionnement des plateformes en ligne. Selon lui, il vaut mieux être extrêmement conservateur dans ses pratiques sur l'Internet. L'expert conseille par exemple d'acheter seulement sur une poignée de sites marchands très réputés, de restreindre ses activités à des plateformes que tout le monde utilise et de limiter ses interactions aux personnes que l'on connaît déjà. Emeline Manson mise de son côté sur les émotions. Ça peut sembler bizarre. Mais je crois que c'est essentiel de savoir à quoi on est le plus sensible, ce qui nous fait réagir. En formation, elle aborde 4 émotions rattachées à la cybersécurité. La cupidité, ou la proposition attrayante, la curiosité, la peur et la serviabilité. La première concerne toutes les offres trop belles pour être vraies, comme une offre d'emploi au salaire mirobolant. Un proche qui nous envoie une vidéo en nous demandant si c'est nous s'en prend à notre curiosité. les situations où des conséquences graves peuvent survenir si on n'agit pas immédiatement, comme une fenêtre qui s'ouvre pour nous aviser qu'il y a un virus sur notre ordinateur, jouent plutôt sur la peur. Et si un ami nous écrit sur Messenger parce qu'il a un problème avec son compte Interact, on aura évidemment envie de l'aider. Généralement, toute tentative de fraude vient titiller l'une de ces émotions, cupidité, curiosité, peur ou serviabilité. Il faut prendre un pas de recul pour analyser la situation, surtout si elle nous fait réagir, nous dit Emmeline Manson. On peut par exemple communiquer avec notre proche par un autre mode de communication pour vérifier l'information. Des outils méconnus. L'information représente d'ailleurs la meilleure arme pour se protéger de la fraude. Or, si des outils existent, le grand public n'en connaît généralement pas l'existence. Benoît Dupont remarque que certains navigateurs offrent une extension pour vérifier la légitimité d'un site web. Les sites marchands comme Amazon permettent aussi d'évaluer la réputation de chacun des vendeurs, souligne-t-il. Le professeur a en outre fondé à la clinique de cybercriminologie de l'Université de Montréal la première plateforme communautaire de signalement de cas de cyberfraude au Québec, fraude-alerte.ca. On peut notamment entrer un numéro de téléphone, une adresse courriel ou le profil d'une personne pour vérifier si un historique de fraude y est associé. Consultez le site fraude-alerte.ca. Et si on a mordu à l'hameçon? Les deux experts s'entendent pour dire que dans un monde idéal, toute fraude devrait être signalée à la police. On sait toutefois que ça demande du temps et que c'est décourageant de raconter son histoire pour une énième fois en sachant que ça ne débouchera pas sur grand-chose, convient Emmeline Manson. Selon Benoît Dupont, la fraude informatique devient un problème endémique au Canada. Toutes les institutions qui font partie de la solution, des services de police aux banques, devraient essayer de se coordonner pour mieux y répondre. L'appel est lancé. 41 111, c'est le nombre de victimes de fraude d'un océan à l'autre en 2023, selon le Centre antifraude du Canada. Ce chiffre représente uniquement la pointe de l'iceberg. Selon les experts, plus qu'une faible proportion des fraudes sont signalées aux autorités. C'était « Fraude, réfléchir un peu avant de cliquer », un texte d'Émilie Laperrière paru le 29 février 2024 dans la presse.
Le lave-vaisselle doit-il être bien rangé? Un texte de Marc Cassivi et Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 29 septembre 2024 dans la presse. Le lave-vaisselle doit-il être bien rangé ou pas? Rempli ou à moitié vide? Il y a deux camps. Les plus psychorigides et ceux qu'ils considèrent comme des psychopathes. Nos chroniqueurs, Rose-Aimée Autonne-Témorin et Marc Cassivi, s'affrontent avec leurs meilleurs arguments, de bonne et de mauvaise foi. Rose-Aimée Autonne-Témorin, Marc, il se passe quelque chose de nouveau dans ma vie. Puis-je solliciter tes services de mentor? Marc Cassivi, mentor, je ne sais pas, Rose. Mais depuis le temps qu'on se connaît, ça me fera grand plaisir. Rose-Aimée, merci beaucoup. Depuis quelques mois, dans les soupers d'amis, un sujet délicat émerge, le lave-vaisselle. On se met à s'obstiner sur les méthodes de rangement ou encore sur ce qui y va ou non. Mon chum, il a déjà mis des casquettes, peux-tu croire? Débattre d'un tel sujet. Est-ce que c'est ça, vieillir? Tu le sais mieux que moi. Sois mon guide. Marc, j'ai eu le sentiment de réellement vieillir quand je me suis mis à lire des articles sur les finances personnelles. Mais c'est bien personnel. Je te dirais que chez nous, le cas du lave-vaisselle a été réglé il y a longtemps. La cuisine est mon royaume. Quand on se risque à y placer la vaisselle n'importe comment, je repasse derrière. Mais ça, bien sûr, ça reste entre toi et moi. Rosémée? Oh non! Tu es donc dans l'équipe psycho-rigide. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce que ça peut vous faire si on met notre fourchette les pointes vers le haut ou notre verre là où devrait être un bol? Marc, ma chère Rose, où tu vois de la psycho-rigidité, je vois de la discipline, de la structure, de l'organisation. Je n'ai pas de problème. Je n'ai que des solutions. La pointe de fourchette vers le bas, c'est pour que mon chat espiègle ne se blesse pas par inadvertance. Quid de ton noun, Alexandre? Le verre devrait toujours être à sa place, où il occupe un espace minimal. Je te rassure, je n'ai pas de trouble obsessif-compulsif. Juste parfois une envie soudaine et fugace d'égarer dans les poubelles ces bols dont raffole mon fils, mais qui s'imbrique si mal dans mon jeu Tetris de porcelaine de chez Ikea. Rosémée, je détecte de la nuance, mais je crée le mensonge et n'essaie pas de m'amadouer en m'amenant mon chat là-dedans. Tu vas me dire que tu ne chiales pas quand tu remarques qu'un membre de ta famille n'a pas suivi ton protocole? Marc, jamais, je te jure. Mais ce n'est pas l'envie qui manque. Si ce n'était de la peur d'être jugé, ce n'est pas non plus comme si j'alternais systématiquement entre les assiettes noires et les assiettes blanches au moment de les déposer dans le lave-vaisselle, comme on me l'a déjà rapporté. Je n'en ai pas des assiettes noires. Rosémée, bravo pour ton contrôle. Tu devrais peut-être devenir le modérateur de mes soupers, avec toute cette maturité. Je connais quelqu'un qui, en apprenant qu'une amie plaçait ses assiettes de manière aléatoire et parfois même diagonale, a murmuré « C'est une psychopathe ». Moi, je la trouvais juste libre. Je crois en l'anarchie du lave-vaisselle. C'est de la spontanéité, de l'improvisation, un rejet de la routine et du contrôle. Notre vie est tellement réglée. Il n'y a pas moyen de se laisser un petit espace de désorganisation. Marc, c'est clair que c'est une psychopathe. Je veux bien, parce qu'on me sert cet argument à intervalles réguliers à la maison, accepter que ceux qui sont désordonnés sont plus créatifs. C'est ce que mon fils soutient pour expliquer le branle-bas de combat de sa chambre. Mais pas dans mon lave-vaisselle. Je m'occupe de la gestion des assiettes et des verres, mais aussi de son entretien. C'est moi qui décrasse les filtres de cette boue rosâtre qui s'y accumule. Moi qui gère le gel et le dégel l'hiver. Mon lave-vaisselle a 15 ans et il est mal isolé. Bref, à moi le droit de veto en toute chose qui le concerne. Ne pas gaspiller d'espace entre les tasses et les soucoupes, c'est ne pas gaspiller d'énergie, d'eau, d'électricité. C'est faire un choix écologique. J'ai l'impression de me transformer devant toi en ex-ministre caquiste. Je suis à un jet d'eau de faire fonctionner mon lave-vaisselle à minuit. Rosémée. Faut laver ça, un lave-vaisselle? Laisse-moi te poser une autre question maintenant. Pourquoi est-ce que les chaotiques et les rigides finissent ensemble, tu crois? Il y a des tonnes de témoignages pour appuyer cette théorie sur le forum en ligne Reddit. Mon commentaire préféré vient d'une certaine Crowley Tangerina. Je le traduis. Dans chaque couple, il y a une personne qui remplit le lave-vaisselle comme une architecte scandinave, et une autre qui le remplit comme un raton sur les méthamphétamines. Marc, ça me fait beaucoup rire, parce que c'est vrai. Je t'écris en ce moment de mon bureau à la maison où tout est rangé sans qu'un papier ne dépasse. dans ma bibliothèque, juste derrière, il y a plus de 2000 films en DVD et en Blu-ray, classés par provenance, québécoise, américaine, internationale, et en ordre alphabétique. Chaque fois que mon fils en emprunte un, il faut que je vérifie qu'il a été remis à la bonne place. Dans le bureau voisin du mien, juste de l'autre côté du corridor, règne un capharnaüm qui me crée de l'anxiété juste à y penser. Des livres empilés pêle-mêle dans tous les sens, des carnets de notes d'une autre décennie, des bibelots à ne plus savoir qu'en faire. Je ne nommerai pas de nom, mais il ne s'agit manifestement pas du bureau d'une architecte scandinave. Rosemée, l'aimes-tu quand même? Marc, quelle question! Rosemée, parce que le risque que ça parte en couille est apparemment réel. En 2018, le Council on Contemporary Families, un organisme qui mène des recherches auprès des familles américaines, a révélé que chez les couples hétéros, les femmes qui s'acquittent seules de la vaisselle vivent plus de conflits et jouissent d'une vie sexuelle moins épanouie. On pourrait croire que le lave-vaisselle est une solution à ce triste sort. Sauf que non. J'ai éclaté de rire en lisant les résultats d'un sondage français mené l'hiver dernier pour l'entreprise de produits d'entretien Sonne. Tiens-toi bien, 42% des répondants de 25 à 34 ans ont déjà envisagé la rupture à cause de désaccords quant au rangement du lave-vaisselle. Vouloir laisser quelqu'un pour ça? Il faut vraiment tenir à sa méthode. À moins que ça n'ait rien à voir avec le lave-vaisselle, finalement. Et si l'objet incarnait la projection de plus grandes frustrations? Marc? Moi, je préfère souffrir en silence. Rosemée? Je note quand même que 35% des répondants estiment que leur partenaire est plus sexy quand il ou elle range bien le lave-vaisselle. Voilà une manière simple de raviver la flamme, ou à tout le moins une statistique à glisser dans le prochain souper d'amis vieillissants. Merci pour tes lumières, Marc. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'était Le lave-vaisselle doit-il être bien rangé? Un texte de Marc Cassivi et Rosemée Autonne-Témorin, paru le 29 septembre 2024 dans La Presse.